Votre émission Envie d'entreprendre vous est proposée par la communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venessin. Vous écoutez l'émission Envie d'entreprendre avec Marie Galardeau sur RTVFM.
Bonsoir à tous. Ce soir, nous accueillons une entreprise qui est gérée par Monsieur Rouir Cédric, Edicium Consulting. Bonsoir Cédric.
Bonsoir à tous.
Très bien. La première question que je pose généralement aux chefs d'entreprise, c'est quelle sorte de formation et de parcours vous avez effectué avant de prendre le choix de créer une entreprise ?
Alors, je suis à la base un ingénieur. J'ai été diplômé de l'école des mines. Ensuite, j'ai évolué, j'ai appris mon métier chez un éditeur de logiciels, un fabricant de logiciels qui était suédois, donc avec une activité plutôt européenne, voire internationale. Jusqu'à l'envie d'entreprendre qui m'a pris 10 ans plus tard, dû aussi à plusieurs événements, et aussi l'envie de géolocaliser une activité et de travailler là où je vivais, ce qui n'était pas le cas.
Très bien, et ça va vous a pris combien de temps entre la formation et l'envie vraiment de créer votre propre société ? Est-ce que vous avez déjà travaillé dans d'autres sociétés en tant que salarié par exemple ?
Oui, c'est cela, donc j'ai travaillé à la sortie de l'école pendant 10 années chez cet éditeur de logiciels où j'ai appris mon métier en tant que salarié, simple salarié, avec une formidable expérience puisque j'ai vu la croissance d'une entreprise quasiment de rien jusqu'à une cinquantaine de personnes. Ça m'a permis de m'atteler un petit peu au concept de la gestion d'entreprise, la gestion humaine, avec une prise de responsabilité assez rapide. Et suite à ça, après m'être aguerri sur différents projets importants, j'ai décidé, parce qu'aussi la société avait muté, avait évolué, d'entreprendre et donc de créer mon propre business sur la base aussi d'une idée qui était celle aussi d'essayer de travailler là où je vivais, puisque l'activité où vous n'êtes jamais chez vous et vous passez votre temps à l'extérieur, la vie sociale n'est pas évidente. Donc c'est un choix audacieux, ambitieux. On est basé à Carpentras, vous le savez. On porte fièrement le totem du numérique. C'est pas évident parce que sur le territoire, c'est pas forcément un secteur d'activité qui est ultra développé, on se le cache pas. Je résiste, je tente de me développer, je suis fier de le faire, je suis fier aujourd'hui d'être là parmi vous, que vous me donniez la parole, parce que c'est quelque chose qu'il faudrait renouveler pour les entreprises comme les nôtres. Aujourd'hui, j'ai créé, je suis fier de le dire, 4 emplois, dont 3 résidents de Carpentras, un qui habite à Baume de Venise, vous voyez. On crée de l'emploi local sur des technologies et des secteurs d'activité à forte valeur ajoutée. Donc, on sait faire autre chose que des secteurs d'activité historiques, agroalimentaires, tourisme, et c'est tous ces secteurs-là. Donc, aujourd'hui, je suis dans cette philosophie-là d'essayer de booster ce secteur et en portant fièrement le totem du numérique sur Carpentras, ce qui est pour moi, je ne me rendais pas compte jusqu'à présent, effectivement, un vrai challenge que je suis, j'espère, en passe de réussir.
Alors, qu'est-ce que fait concrètement Edicium ?
Alors, notre métier se porte sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À la base, le concept, c'est d'aider les entreprises à beaucoup mieux gérer leurs documents. Donc c'est assez vaste. Dans tout cela, il y a plusieurs concepts. Le premier, c'est de passer d'un support documentaire papier à un support documentaire numérique. Ce support documentaire, ensuite, on va le mettre dans un système qui va permettre de créer autour du document tout un tas de processus. Donc c'est pour ça que ce sont des projets que l'on implémente chez nos clients sont très souvent impactés par l'organisation de l'entreprise ou de la collectivité, puisqu'on n'a pas que des clients de secteur public ou privé, enfin on a les deux. Et donc on mène tous ces projets-là avec une vraie culture d'accompagnement, c'est-à-dire je me suis attelé à développer une vraie méthodologie. Nous ne sommes pas des installateurs, nous sommes des intégrateurs. Ça signifie mettre en adéquation une technologie à un usage. Et ça nécessite une compréhension en amont des usages, du fonctionnement de l'entreprise, une écoute, et ensuite une mise en œuvre opérationnelle de ces projets par de l'accompagnement, de la formation, du support et du suivi jusqu'à la mise en service du système et son entretien.
D'accord, donc si j'ai bien compris, l'entreprise a des besoins de restructuration au sein de son parc informatique et l'utilisation qu'il en fait, c'est-à-dire les logiciels. Et j'ai vu aussi également que vous êtes un spécialiste, entre guillemets, du logiciel libre, c'est ça ?
Entre autres, oui, tout à fait. Alors le logiciel libre, c'est venu après, c'est-à-dire d'une part, c'est une vraie orientation philosophique, parce que il y a une vraie démarche écologique aussi, un petit peu sur un courant qui est né maintenant il y a plusieurs années et qui permet aussi de générer plusieurs choses et surtout de rendre les entreprises et les collectivités libres des données qu'elles génèrent et qu'elles gèrent et qu'elles confient à des sociétés comme les nôtres. C'est un peu le contre-courant des logiciels propriétaires qui sont souvent contraignants. Sur le métier, j'insiste, on est vraiment des spécialistes du document numérique. Notre métier, c'est la gestion électronique de documents, l'accompagnement des entreprises à la mise en œuvre de ces solutions, qui sont des solutions parfois complexes, mais qui apportent énormément de productivité, de sécurité, de fluidité dans les processus. Une entreprise aujourd'hui qui est 100% papier qui tient à le rester, faut pas se le cacher, est très probablement condamnée. Elle doit se moderniser, elle doit prendre le virage du numérique le plus tôt possible. On est là pour les accompagner. Et parmi les outils numériques, il y a la gestion électronique de documents, parmi tant d'autres. Hein, je ne porte pas le totem du numérique exclusif, loin de là. Le numérique est un métier complexe, à multiples strates, mais la nôtre, aujourd'hui, est de plus en plus visible. Parce que on se doit aujourd'hui d'imprimer moins, on se doit d'avoir moins de papier, on se doit d'être plus productif. Un chef d'entreprise vous dira toujours « je veux faire plus avec moins », mais comment ? Ben grâce à ce type d'outils. On ne peut pas démultiplier la ressource humaine, parce qu'elle coûte cher, elle est rare parfois, la ressource humaine qualifiée est rare. Donc nos outils sont là aussi pour aider les entreprises à rendre les collaborateurs plus productifs, et à faire beaucoup plus avec moins.
Ça s'adresse à quelle entreprise ?
Alors, en premier lieu, les entreprises plutôt de profil PME, PMI. Les toutes petites entreprises ne sont pas encore assez matures pour cela. Elles ont d'autres besoins avant celui-ci.
Mais moi, il me semblait justement que les PME étaient déjà au goût du numérique. Et ça me semble bizarre d'entendre qu'il y a une PME qui fonctionne encore avec du papier, quoi.
C'est surprenant, mais c'est une réalité. Le marché aujourd'hui, les chiffres du marché démontrent qu'à peine 30% des PME sont équipées. Donc c'est un marché avec un fort potentiel. L'avènement des technologies, l'accessibilité du web a permis cette mutation. Mais peu de PME aujourd'hui sont équipées. Et
c'est dû à quoi justement ? C'est par la méconnaissance, la peur ? C'est dû à quoi ?
La difficulté de notre métier, c'est la conduite du changement. Alors c'est un vaste mot, je ne veux pas le... J'essaie de le vulgariser en expliquant que les gens aujourd'hui ont une certaine façon de travailler dans leur entreprise. Elles manipulent certaines informations d'une certaine façon, notamment des documents, qui fait partie du quotidien. Et quand vous tentez d'expliquer qu'on va peut-être les aider à beaucoup mieux travailler, mais cela va passer par une réorganisation de leur façon de travailler. C'est ce qui est le plus dur. Aujourd'hui, la mutation aujourd'hui des entreprises par le document numérique impose une rupture d'une part technologique. On rajoute un outil, même si on essaie de bien le canaliser. Mais surtout, c'est une rupture sociétale. Le papier fait partie de notre quotidien, fait partie de notre vie. Et les entreprises ne sont pas réellement prêtes, parfois, à le faire. Alors, il y a plusieurs ingrédients pour que ça fonctionne. C'est pour ça que par rapport au besoin primitif de communiquer, de créer un site web où tout le monde est unanimement d'accord dans une entreprise, avant de...
S'il est maintenu, s'il est entretenu,
exactement,
etc.
Il y a plusieurs conditions, effectivement, pour que la pérennité du site soit garantie. Mais pour nous, il y a plusieurs ingrédients, et c'est souvent les trois œils de Moscou. Il faut d'un, qu'il y ait un besoin, deux, que l'activité soit en adéquation avec ce type de solution. Un assureur et par exemple une entreprise en négoce n'a pas du tout les mêmes besoins. Et puis surtout, ce sont des projets qui sont pilotés, supportés, imposés par la direction. S'il n'y a pas cet ingrédient-là, ce support, ce sponsoring, les projets ne naissent pas, ne se développent pas et sont des échecs avant même d'être nés. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut communiquer, parfois évangéliser un peu, je suis là aussi pour ça, pour le faire, mais c'est avant tout une décision de la direction, parce qu'il y a forcément du frein au changement qui peut faire que ces projets finalement ne naissent jamais, malgré tous les gisements potentiels de productivité, de gains d'argent, direct, indirect, qui peuvent susciter, peuvent produire.
Et justement, quand vous installez donc tous ces outils, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une personne qui soit identifiée pour la gestion, ou ça se gère, c'est vous qui gérez la maintenance, c'est vous qui gérez tous les petits soucis, ou il faut identifier une personne bien précise dans l'entreprise ?
Alors, dans l'entreprise, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle un référent, une personne qui va être le support du projet, qui va nous aider à le mener et qui va suivre le projet dans son ensemble. Notre vocation, c'est quand même de rendre les entreprises et les collectivités que l'on équipe autonomes. Donc, dans l'entretien, dans la maintenance de leur système. Nous sommes là, évidemment, en support de niveau 2, c'est-à-dire nous apportons l'expertise nécessaire à l'évolution du système, qui sont parfois liées à des évolutions réglementaires. On prend pour exemple des sociétés qui, par rapport à leur métier, ont des évolutions réglementaires fortes. Les collectivités, par exemple, avec de plus en plus de dématérialisation. Et là, on est obligé d'intervenir, effectivement, parce que c'est technique, c'est complexe. Il y a beaucoup d'interactions et on va intervenir pour les aider à évoluer. Mais néanmoins, le logiciel est fait pour que les utilisateurs et en interne une personne référente soit capable évidemment de l'entretenir. Sinon, on pourrait pas, on devrait être beaucoup plus nombreux et je pense que la pérennité de l'entreprise serait pas assurée. Il faut qu'on soit sur un transfert de connaissances, un transfert de compétences est primordial auprès des entreprises.
Là, vous parliez d'entreprises, mais vous parliez aussi de collectivités. Quels sont vos autres clients qui sont aujourd'hui dans votre palette ?
Alors, collectivités en tout genre. Vous voyez, j'étais dans un centre départemental d'incendie et de secours il y a quelques heures. Donc, une administration. On a des collectivités territoriales, des collectivités, des administrations également type préfecture, donc mairie évidemment, des villes. Des comités de communes, comités d'agglo, voilà pour le secteur public. Secteur privé, ça va être des sociétés, surtout dans certains segments d'activité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines activités qui ne brassent pas réellement de paperasse, qui ne sont pas réellement pour nous des clients potentiels. On va retrouver des entreprises PME dans le négoce, la distribution, l'industrie, tout ce qui est cosmétique, où il y a une forte demande de traçabilité des produits, donc qui peut être parfois totalement résolu grâce à la gestion électronique documentaire et des fortes contraintes de traçabilité. L'agroalimentaire, donc on est sur une zone agroalimentaire et donc il y a des besoins. Après voilà, il faut effectivement, c'est une alchimie entre la communication que l'on en fait, le besoin aussi, la maturation du besoin dans les entreprises qui est parfois malheureusement encore pas assez mûr.
Je pense qu'avec pour les entreprises, c'est peut-être plus facile de comprendre votre travail. Mais par contre, pour les communautés de communes, pour ceux qui sont du service public, est-ce que c'est pas un peu plus dur parce que les employés qui sont à l'intérieur sont peut-être moins préparés à cela ?
Oui, c'est une réalité. Alors,
et donc, vous les formez ?
Alors, complètement. La demande, elle n'est pas tout à fait la même dans les collectivités. Elle est imposée par la notion de service public. Vous savez que nous... administrés que nous sommes, nous en voulons toujours plus de services connectés, toujours plus exigeants vis-à-vis des services de l'État. Donc, il est important que aujourd'hui, les directions générales des collectivités, à un moment donné, prennent conscience qu'il y a des solutions pour les aider. Et c'est plutôt l'administré, donc le client de la collectivité, hein, même si je ne veux pas employer ce mot réellement, c'est lui qui dicte le besoin. Donc aujourd'hui, il y a des projets qui naissent de ça et de la dynamique d'une équipe à la tête de la collectivité qui a été élue, qui a envie réellement d'apporter ce service. Donc ça va passer par de la réactivité, de la productivité. Et donc les agents sont obligés aujourd'hui de muter et d'évoluer avec cela, même si le rendement dans une collectivité demandée ne sera pas le même que dans une entreprise de droit privé. C'est évident, c'est une réalité, on ne peut pas se cacher.
Est-ce que vous avez justement des outils adaptés pour toutes sortes d'entreprises ou vous devez rechercher, même inventer ou créer ?
Alors nous sommes des intégrateurs, je l'ai dit en introduction du débat. Notre métier, c'est de faire du sur-mesure. Nous n'apportons pas une solution unique, ce n'est pas possible. Nous sommes réellement dans l'ajustement d'une solution par rapport à un besoin. Alors pour ça, on a différents produits. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, on vient au logiciel. Mais avant d'y venir, il faut bien que l'on ait appréhendé les besoins. Donc il y a une étude préliminaire, un discours, un dialogue qui s'enclenche. Un état de la situation. Et par rapport à ça, on a dans notre panier plusieurs produits, technologies, que l'on va parfois intégrer entre elles. D'accord. Et proposer aux clients dans le cadre d'un projet global. Donc effectivement, on n'a pas de solution unique. On est tout le temps sur du sur-mesure. D'où cette méthodologie tout au long du projet qui consiste à formaliser le besoin, ensuite le transcrire dans une solution informatique, modéliser, montrer, ajuster, former, développer et ensuite mettre en production le système. On n'a pas vraiment de solutions stéréotypées.
Et en temps d'action, justement, c'est en fonction des besoins, ça j'imagine. Mais quel est le projet général, le temps de travail que vous y mettez?
Alors, un projet là, dans ce type de solution va prendre un petit peu de temps. Pour la simple et bonne raison que la conduite du changement, comme je vous l'ai dit, prend du temps. C'est-à-dire l'évolution de la mentalité des gens à vouloir utiliser des outils, à se moderniser, ne se
fait
pas...
Dès le départ, ça se fait ou c'est parce que vous avez mis en place, déjà en étudiant les projets, vous avez fait une proposition et ça prend le temps qui se crée, se fait après la proposition ou c'est au démarrage déjà?
Alors le temps, vous parlez du temps d'implémentation?
Oui.
Alors le temps, il est calé à l'avance parce qu'on définit toujours un planning, un projet. Voilà. Il y a trois composantes assez académiques, ce que je vous dis. C'est un coût, une qualité, ce qu'on attend et un délai. Sans ces trois ingrédients, il n'y a pas de projet. C'est la règle numéro un. Donc le timing est souvent dicté par le client. Après, nous avons suffisamment d'expérience aujourd'hui pour tempérer ce planning, essayer de le rendre réaliste. Et il y a une règle numéro un dans ce type de projet, c'est être challenging but realizable, comme disaient les anglo-saxons, c'est-à-dire être ambitieux mais aussi réaliste. Et je suis plus souvent en train de freiner mes clients. Très souvent, c'est vrai, c'est surprenant, hein, quand les entreprises, la direction a envie d'y aller, souvent elles ont des ambitions démesurées, mais le magiciel n'existe pas.
Ça, donc, c'est pas mal, ça, magiciel.
Exactement, c'est une expression que j'aime bien, et d'ailleurs, je pense que c'est même moi qui a dû l'inventer, parce qu'on parle souvent de logiciel magique, moi j'appelle ça le magiciel, n'existe pas. Donc, c'est avant tout un problème humain. Hein, c'est l'adéquation des usages, l'organisation à mettre autour d'un logiciel est plus importante que la technologie elle-même. Ça paraît bateau, ce que je vous dis, mais c'est très difficile à faire passer. On pense qu'on achète un super produit, on paye super cher, et ça va répondre à tous nos besoins d'entreprise. C'est faux, c'est archi faux. C'est avant tout un problème d'organisation, de procédure, et ensuite le logiciel vient en support. C'est ça notre métier, hein, c'est compliqué, d'accord. Je le comprends, c'est complexe. Mais c'est pour ça qu'on est une société d'ingénierie et de services à forte valeur ajoutée. Les gens dans mon entreprise sont tous des ingénieurs de formation. D'accord? Donc c'est avant tout une culture de délivrer de l'excellence. Mais par contre, le plus compliqué, c'est de convaincre.
Et justement, quand vous avez convaincu, entre guillemets, vous avez votre projet bien ficelé, et vous est-ce que vous rentrez justement, et je suppose, dans cette formation d'acceptation par rapport aux salariés, parce que je ne parle pas du chef de projet ou de celui qui est en accord complet avec le projet, mais les personnes qui sont derrière, comment vous arrivez c'est un amalgame de personnes en groupe pour travailler ensemble sur ce projet et le mettre en action dans l'entreprise ou dans la communauté de communes, ou alors c'est vous qui faites cette formation aussi auprès du personnel?
Alors il y a, au départ du projet, dans la conduite du changement, une véritable stratégie de communication que l'on met en place avec les directions générales. Cela passe par de l'information, de la surinformation, de l'éducation, parfois même la redéfinition de certains postes de travail. Donc il y a des modifications profondes.
Ça change carrément. Est-ce qu'il y a des gens réfractaires justement à ça?
Il y en a, forcément. Et tout l'enjeu réside souvent à essayer d'attirer vers une position médiane, les gens qui sont très appétants, qui veulent aller extrêmement vite, qui ont plein d'idées, et ceux qui justement sont dans le cas inverse, qui ont de fortes réticences. Et toute la conduite du changement, si je peux la résumer ainsi, c'est de trouver une position intermédiaire, consensuelle, entre ces gens-là, en essayant de freiner les ardeurs des plus appétants et d'attirer vers le haut les gens qui sont le plus en difficulté. Et tout ça, ça se gère, c'est notre métier. De l'information, de la surinformation, de la communication, de la formation. On s'appuie sur la valeur de ces gens-là parce qu'ils ont une énorme richesse en termes de ressources humaines. On s'appuie sur ces gens-là, on va aussi s'intéresser à eux lors des formations, lors des ateliers de travail que l'on va organiser. Et puis on y arrive aujourd'hui 100%. Moi j'assume 100% de mes projets sont des succès. On est une société, on est dans l'excellence. Donc on ne peut pas se tromper. En plus on est une PME à Carpentras, vous imaginez bien que... je ne peux que m'autoriser à l'excellence et surtout pas autre chose. Donc on y arrive. Mais oui, effectivement, c'est notre secret de fabrication. C'est un peu ce qu'une entreprise, une industrie fabrique et a son savoir-faire. Ben, nous, c'est le nôtre, c'est celui-là, quoi.
Très bien, on va se retrouver après une petite page musicale. À tout de suite.
L'émission Envie d'entreprendre vous est proposée par la communauté d'agglomération Ventoux Comte Avenessin. Vous écoutez l'émission Envie d'entreprendre avec Marie Gallardeau sur RTVFM.
Heureuse de vous retrouver après cette pause musicale, nous recevons Monsieur Ruir Cédric. Alors, je vous rappelle sa société, c'est Edicium. Edicium Consulting, donc c'est un dirigeant. Vous pouvez le contacter au 06 46 85 21 69. Et pourquoi vous pouvez le contacter? Eh bien, si vous avez justement envie de restructurer à l'intérieur de votre entreprise pour avoir des outils efficaces à mettre en place, eh bien, n'hésitez n'hésitez pas à lui écrire aussi également sur sa boîte mail. C'est cédric.rouir, R-O-U-I-R-E, @edicium.com. Donc on en revient à votre entreprise justement. Quelles sont les qualités pour être un bon chef d'entreprise comme vous l'êtes ?
Alors, je ne sais pas si je suis un bon chef d'entreprise, je pense l'être, mais après, en toute humilité, je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Pour moi, la richesse, je l'attire déjà des collaborateurs. Hein, j'ai aussi voulu créer l'entreprise à un moment donné pour... je me suis posé la question de rester indépendant et d'exporter mon savoir-faire et de le vendre très facilement à des grandes sociétés qui sont à la recherche. J'ai voulu créer l'entreprise avant tout pour m'entourer de compétences et de collaborateurs.
Vous avez tout de suite embauché ?
Quasiment, oui. J'ai dû végéter peut-être 6 mois. Après, j'ai embauché mon premier collaborateur assez rapidement. Mais la croissance, elle est lente. Hein. On n'est pas dans un modèle de start-up. Parce que je pense, dans ma façon de gérer, je me comporte plutôt comme un bon père de famille. C'est-à-dire quelqu'un qui capitalise, qui essaie de vraiment d'ancrer la société très sereinement et de ne pas être sur un modèle trop exponentiel, souvent qui n'est pas réellement stabilisé. Donc on est vraiment sur un développement très lent. Et je pense une accélération qui se fait sentir maintenant ces 6 derniers mois, on va dire.
Quand vous dites en bon père de famille, ça veut dire que les ressources humaines, tout ce qui est la gestion du personnel, pour vous, c'est important ?
C'est super important. La richesse d'une entreprise comme la nôtre, c'est les collaborateurs. Je vous l'avais dit, on vend de la matière grise, on vend de la prestation intellectuelle, et puis des solutions certes, mais c'est avant tout l'accompagnement. Nos projets, c'est 80% d'accompagnement, de prestation, et le reste de la solution, du produit, un peu de matériel. Enfin, c'est honnêtement pas le cœur de métier que de vendre du matériel. Donc la valeur humaine est très importante et donc la façon de la gérer et de la rendre heureuse, qu'elle ait envie de venir travailler, le management, la gouvernance est très importante et je le fais réellement en bon père de famille, c'est-à-dire que les gens soient heureux de travailler, aient envie d'aller plus loin, aient envie aussi parfois de faire quelques efforts. On est sur un modèle, à mon échelle, très TPE, donc on doit être polyvalent et surtout une énorme autonomie dans le travail. Voilà, moi aujourd'hui en plus j'ai un métier où je suis en déplacement, il n'y a pas réellement de permanent à l'entreprise, nous sommes tous en vadrouille chez nos clients, à droite, à gauche, en permanence en train de jongler entre un projet et un autre, donc l'autonomie c'est très important, l'abnégation. Et puis je dirais comme on est toujours dans un métier où il faut savoir faire preuve de calme, d'autorité parfois, donc comme je leur dis souvent, mes collaborateurs, main de fer dans un gant de velours.
On peut les citer, quels sont leurs prénoms ?
Il y a Guillaume, il y a Pierre-Yvan, il y a Saïd et il y a Patrick qui est une ressource externe qui travaille maintenant depuis 5 ans pour nous, qui fait partie de l'entreprise.
Que des hommes ?
Que des hommes.
Pour quelle raison ?
C'est un hasard.
C'est un hasard ?
Oui, c'est un hasard. C'est vraiment... Là, je suis entré dans une nouvelle phase de recrutement, par exemple. C'est vrai que je me suis posé la question. Je reçois des candidats type féminin. Bon, après, c'est vraiment l'adéquation du profil. Mm-hmm. Le feeling, quand on fait un recrutement, les gens bien calés dans leur tête. Et je recherche sincèrement plutôt des profils atypiques. J'ai remarqué que ça marchait beaucoup mieux. Soit des gens qui ont eu un accident de parcours, soit des gens qui ont un profil réellement atypique. Je trouve que ça marche mieux.
Justement, ce soir, on a avec nous un étudiant, Franck Janin, bonsoir.
Bonsoir.
Et il souhaitait vous poser 3 questions sur le recrutement des collaborateurs, mais avant, j'aimerais qu'il se présente. Il est étudiant dans quel domaine et où ?
Alors, je suis étudiant en design graphique sur Lyon. J'habite sur Saint-Étienne, donc au même endroit que monsieur a fait les études. Dans ma formation, on nous fait faire des stages et je sais que c'est pas évident. Et alors, recrutez-vous donc des stagiaires ou des salariés dans votre entreprise de ces temps-ci ?
Alors, des stagiaires, j'avoue que c'est compliqué pour nous. Honnêtement, si j'avais... Je pense que ça viendra quand on aura...
Est-ce que c'est un métier déjà qui se prête au stage ?
C'est ça le problème. Mmh. C'est qu'un stagiaire, j'ai été stagiaire hein, dans mes études, Et un tuteur de stage, c'est pas du vent, c'est quelqu'un qui s'occupe de vous, qui passe du temps, qui transmet. Et nous, on n'est pas réellement disponible à ça aujourd'hui parce que déjà, on n'est pas physiquement sur place. On est souvent en déplacement, hein, notre zone de, on va en parler après, mais on se déplace quand même assez souvent. Et ou alors, il faut que le stagiaire soit prêt à ça. J'en ai eu pris. Au bout de 2 jours, on les embarque dans la voiture, dans le train, et parfois, c'est aussi un frein. Les gens ne veulent pas forcément se déplacer. C'est quelque chose de contraignant. Sincèrement, c'est contraignant. Donc, j'aimerais. Je pense que ça va venir quand on aura un peu plus de stabilité, que l'entreprise sera structurée différemment quand on a implémenté certaines fonctions dans l'entreprise. On aura un peu plus de permanents et pour s'occuper réellement de transmettre et de concrètement de se faire accompagner. Je précise que le stage, l'alternance, est aussi une voie de recrutement. L'un de mes collaborateurs, Pierre-Yvon, est issu de cette voie-là. Il était stagiaire et il est resté dans l'entreprise à suite de son stage.
Donc, comme quoi, c'est possible aussi, si on fait les efforts, de s'adapter aux valeurs de l'entreprise, mais aussi de la façon dont elle va chercher ses clients et elle fonctionne.
Exactement, c'est le projet. Hein. Il faut que d'ailleurs, quand je recrute un stagiaire, hein, donc je lui vends quand même, entre parenthèses, le projet d'entreprise. Hein. Faire un stage pour ne pas y rester, pour moi, c'est pas ancré dans ma mentalité. D'accord. La personne, je cherche quand même à l'accrocher. Et si possible, à ce qu'elle reste. C'est important, hein, parce qu'on, vous savez que recruter, former, c'est énorme, l'énergie que ça débauche.
Ça coûte de l'argent aussi.
Ça coûte, c'est énorme. J'ai eu quelques déboires avec ça. Et je souhaite plus me tromper sur le sujet. Donc, c'est très important. Et je prends mon temps aujourd'hui de recruter des bons collaborateurs. Essayer de vraiment de déceler à la fois des gens talentueux avec un profil atypique et surtout qui adhèrent réellement au projet d'entreprise.
D'accord, merci. Et alors, que demandez-vous comme qualité aux collaborateurs que vous recrutez ?
Alors, j'ai mis au point, à mon niveau, une grille d'embauche. Quand je rencontre les candidats, je leur fais passer certains tests. Je les mets en situation. Donc, il y a déjà l'analyse d'une situation critique, parce que client, par définition, c'est exigeant. Je pose un peu, comme dans un jeu de rôle, les éléments d'une situation un peu stressante, et je leur demande comment ils réagissent. Voilà, ça c'est très important d'avoir cette capacité d'analyser, prendre du recul et de prendre bien les éléments et d'essayer d'avoir un regard objectif posé sur une situation en essayant de dégager des sources de résolution de problèmes. Mais le maître mot c'est la communication. Donc faut être très vigilant à cela. Donc je leur demande effectivement d'être des bons communicants parce que dans notre métier on expose. Moi j'interviens régulièrement, j'anime des comités de pilotage auprès de direction générale, etc. Donc il faut avoir une certaine prestance. Alors ça s'apprend, je comprends, ça s'apprend, mais au départ, il faut quand même savoir communiquer et développer, en termes de développement personnel, une certaine aisance.
Est-ce que c'est un savoir-faire qui est inné ou que la personne a un tout petit peu, que vous allez détecter et vous allez dire, ben, quand elle va être avec moi, elle va développer cette partie-là?
Alors je prends mon exemple personnel, je me revois il y a 20 ans quand j'ai démarré, je ne pensais pas du tout arriver à ça et je me sentais plutôt timide et pas réellement à l'aise, même si j'avais une formation qui m'avait appris certaines bases. Mais après, on le développe sincèrement et je pense que pour ça, effectivement, on essaie de détecter le potentiel d'une personne qui va pouvoir développer cette compétence-là. Après, effectivement, il y a la partie technique, on est dans un métier très pointu. La compétence technique, maîtriser un certain nombre de technologies est important. Par contre, ça s'apprend aujourd'hui. Je ne vais pas citer de grandes marques, mais vous mettez sur Internet, l'informatique, on l'apprend. Il y a même des autodidactes que je trouve extrêmement brillants, même meilleurs que des gens qui sortent d'école. Donc, pour moi, le savoir, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est une bonne chose, mais le savoir-faire et le savoir-être, c'est le plus important. Et d'où cet effort de formation, quand j'emporte des gens avec moi, où je passe du temps, parce que je cherche vraiment à les tirer vers le haut et à leur donner cette dimension du consultant. Je suis un consultant. Après, on donne le titre qu'on veut, mais je me sens dans ce rôle-là d'être capable d'écouter, comprendre, formaliser. Très important aussi, la formalisation. Savoir écrire. Hein, on est à l'heure, aujourd'hui, on écrit des textos, on fait 18 fautes d'orthographe à la ligne, et c'est un truc qui m'insupporte, sincèrement. D'ailleurs, j'ai mis en place dans le test de recrutement un test de dictée. C'est bête. je donne la feuille au candidat, je lui dis d'écrire son CV à la main, et quelqu'un qui fait trois fautes à la ligne, pour moi, n'est pas recevable, il repart, quoi. Voilà, dans mon métier, on communique beaucoup, c'est bête, mais je pense que ces valeurs-là, première chose que je leur demande aussi, c'est de savoir écrire. Donc j'ai dit beaucoup de choses, mais avant tout, c'est des fondamentaux. Quelqu'un de bien câblé, qui sait réfléchir, qui sait prendre du recul, qui sait écrire, qui sait qu'elle est rudiment de la communication, c'est-à-dire qu'elle est à peu près à l'aise, qui sait maîtriser son stress, déjà on est sur 80% des critères que je recherche. Après la technique, ben, ça s'apprend. Et puis le reste vient avec l'expérience. Et c'est comme ça que j'essaie de détecter ce type de personne. Mais c'est très très compliqué, quand ce n'est pas son métier d'ailleurs.
Votre entreprise, elle a quel âge ?
Elle a été créée en 2009.
2009 ? Et vos collaborateurs, c'est tous les mêmes depuis le démarrage ou...
Oui, pas eu de départ.
Pas eu de départ ?
Pas eu de départ, ouais. Donc les seules personnes qui sont parties, ce sont celles qui sont pas allées au bout de l'aventure, notamment à l'issue d'un stage ou d'une période d'alternance. Je pense par c'est pas faute d'essayer de les avoir gardées. Hein. C'est des gens qui avaient à mon avis un peu trop d'ambition et qui n'avaient pas complètement adhéré au projet entreprise.
Mm-hmm. Une autre question, Franck ?
Oui. Que conseillez-vous à un jeune qui veut créer une structure dans votre domaine ?
Alors dans mon domaine, quelqu'un qui aimerait se lancer, il faudrait déjà, je pense, développer un réseau de partenaires. Le plus compliqué pour moi aujourd'hui, c'est le développement commercial. On est sur un métier qui est peu connu, qui n'est pas grand public, qui intéresse des sociétés extrêmement spécifiques, donc avec un domaine qui se réduit. Et le plus compliqué, c'est le développement commercial. Donc, le conseil que je donnerais, c'est avant tout d'essayer de trouver, pour démarrer, le bon partenaire, la bonne société, la bonne structure qui va porter, au départ, l'offre de l'entreprise. Donc, ça veut dire regarder un petit peu quels sont les métiers connexes, avec qui on pourrait trouver éventuellement des synergies, une dynamique commerciale pour essayer de lancer son offre, son activité. C'est le premier conseil. Parce que arriver sur le marché, jeune, sans expérience, je pense que c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, la technologie, la technique, pour moi, c'est pas annexe, hein, c'est pas vrai, hein, je vais pas mentir, mais c'est qu'une quote-part de la valeur ajoutée que l'on amène. Le savoir-faire, le savoir-être, est pour moi le plus important.
Vos ingénieurs sont toujours en train d'apprendre pour justement être à la pointe de...
Non mais j'apprends tous les jours, hein, je vous assure. Ma richesse aujourd'hui, je la tire de mes clients. Je travaille depuis 20 ans dans ce métier, je fais du conseil, j'ai dû croiser, je ne sais pas le dire, des milliers de personnes différentes. C'est extrêmement riche. Chaque personne a une richesse à partager. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Alors c'est sûr, c'est plein de contraintes. Les gens, il faut aller chercher. C'est-à-dire, ils ne viennent pas dans votre bureau tous les matins en tapant « Bonjour, j'ai un projet ». Donc on se déplace. Les projets, pour moi, se font chez les clients. C'est une valeur, ça aussi, hein. On est dans l'heure aujourd'hui, on cherche à faire du offshore, à externaliser un maximum de choses, à faire des projets informatiques à l'autre bout du monde. Ça marche pas. Je l'ai vécu, ça marche pas. Donc je leur dis, les projets se font chez les clients, le face-to-face, comme on leur dit. Il faut voir le client, il faut qu'il vous sente, il faut que vous l'accompagniez physiquement. Et donc on tire énormément de richesses de tout ça. Moi, j'apprends tous les jours. Hein. J'étais encore tout à l'heure dans un service départemental d'incendie de secours. Ben, je rencontre des gens fabuleux, des commandants, des capitaines... de colonnes, des gens qui pilotent, qui gèrent des hommes dans une caserne, et pourtant je leur apporte des solutions, mais avant tout ils nous apprennent des choses extraordinaires. Et dans une collectivité on va rencontrer d'autres personnes, dans une PME on va rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres richesses. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est ça qui m'attire dans ce métier, et c'est ça qui est honnêtement aujourd'hui mon leitmotiv. Me retrouver dans un bureau à attendre, m'asseoir tous les matins au même bureau devant le même ordinateur, à la même place, à boire son café à heure fixe, sincèrement je peux pas.
Donc on pourrait dire aussi la qualité d'un jeune qui serait apprécié dans votre entreprise. Est-ce que c'est la passion aussi ? Est-ce qu'il faut être un passionné ?
Je pense qu'il faut être, il faut avoir une âme du consultant. C'est-à-dire il faut avoir la passion de ce métier dans le sens où il faut que l'on s'adapte en permanence. Et être capable de, entre guillemets, hein, de naviguer en eau trouble. J'aime bien cette expression parce que je vous dresse un tableau un peu effectivement idyllique, hein, un peu du métier, mais sincèrement c'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne droite. Donc on navigue autour de cette ligne droite, de cette trajectoire, de cette vision prospective que l'on a du métier et des projets qu'on essaie de mettre en œuvre. Et après on navigue. On navigue en eau trouble. Donc faut savoir analyser parfois des situations, regarder les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir en différents interlocuteurs, s'appuyer. Il y a tout un tas de choses pour essayer de faire passer des messages, essayer de que les projets se déroulent au mieux. Et ça, ouais, c'est une vraie passion parce que, encore une fois, c'est la richesse des hommes, c'est l'humain. Hein. Pour moi, l'humain, c'est le plus important, quoi. La communication, l'humain. J'ai réellement commencé à décoller dans ce métier quand j'étais salarié, quand je me suis intéressé vraiment à l'humain. J'ai pris un peu de recul et je me suis intéressé aux hommes et aux femmes qui m'entouraient. Et j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait, la communication. Quand vous restez dans votre terrier à parler de techno, d'outils, de se faire plaisir à faire des programmes informatiques qui font, qui mettent à l'envers des choses et qui pilotent des machines à café, c'est super. Honnêtement, ça sert que vous, quoi. Voilà. Mmh. C'est l'humain. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc, il faut une passion, effectivement. Il faut une passion envers les hommes, s'intéresser aux gens et tirer ce qui est attiré de cette richesse.
Vous êtes basé à Carpentras, je crois. L'adresse?
129 boulevard Louis Giraud, pas très loin de la nouvelle gare TER. Voilà, donc on est très bien, on est installé là depuis un an et demi et honnêtement on est ravis, on est vraiment super contents, quoi.
Et vous êtes toujours en train de bouger, justement. Quelle est votre zone géographique d'achalandise?
Alors on est sur un secteur grand sud-est, hein. C'est vrai que comme notre zone n'est pas réellement, notre métier pardon, est assez, n'intéresse qu'une certaine frange d'entreprises et de collectivités, même si les collectivités c'est un peu plus captif, on s'exporte pas mal, même à l'étranger. Moi j'ai des clients en Suisse par exemple, je vais jusque dans les Pyrénées-Orientales, Lyon, et puis de manière parfois plutôt exogène, on a des projets sur Lille, dans le nord de la France, voilà, mais on est quand même majoritairement dans le grand quart sud-est. Mais bien au-delà des frontières du Vaucluse, on est bien d'accord là-dessus, c'est vraiment un constat, parce que je pense que le Vaucluse aujourd'hui n'est pas un terrain de jeu suffisamment dynamique. Aujourd'hui, malheureusement, hein, c'est un constat. Donc on essaie de s'exporter, parce que sinon on ne pourrait pas vivre.
Est-ce que on parlait de commercial, de communication, est-ce que vous aviez au démarrage une stratégie commerciale et une stratégie de communication pour votre métier?
Alors je vais être honnête, non. Par contre, comme j'avais mis le doigt là-dessus très rapidement, ben je me suis attaché les services d'un consultant, comme moi, mais qui lui était spécialisé dans l'accompagnement des jeunes entreprises. Il m'a accompagné 6 mois. Tout ce qui est visible aujourd'hui est sorti de cela, en fait. Pour moi, ça a été important. Ça a été aussi un nœud important du développement de la société. Ça m'a donné de faire le constat, de dire je suis pas bon en communication, le marketing, c'est pas mon truc. Ben je vais me faire aider. Donc on a mis en place le plan stratégique de développement, la stratégie de communication, et j'ai essayé de l'appliquer. Aujourd'hui, je pense que même j'aurais besoin d'un second round. Je suis prêt à recommencer l'expérience pour passer à la phase 2 en développement.
En développement?
Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il faut allier un certain nombre de compétences quand vous développez une entreprise, communication, marketing, commercial, technique, gestion des hommes, administratif, parce que pour l'instant, je gère pas mal de choses.
Donc vous faites tout, vous avez les 5 casquettes du dirigeant, en fait.
Oui, aujourd'hui, ouais, je fais tout concrètement. Ouais, on est dans une taille critique, hein, 4-5 personnes, c'est la bascule là. Donc la phase d'après, c'est justement de structurer. Je vous parlais d'assises de la société, d'essayer d'embaucher peut-être des stagiaires pour leur vraiment passer du temps avec eux. Ben, on est là-dedans, il faut que j'arrive à faire cette transition, que la société arrive à faire la transition pour basculer vers une taille humaine qui va permettre maintenant de s'asseoir et de développer des vraies fonctions dans l'entreprise.
Et qu'est-ce qui va être le déclencheur?
C'est le business, il n'y a pas de secret. Là, je vous parle clairement d'un homme d'affaires. Hein. Mm-hmm. Les rentrées de commandes, soyons clairs. Une entreprise aujourd'hui ne vit pas s'il n'y a pas de bonnes commandes, point. Après, on évangélise tout ce qu'on veut, on fait de la com sur tout ce qu'on veut. L'entreprise doit gagner de l'argent, doit vendre ses services, doit dégager de la marge, du chiffre d'affaires. S'il n'y a pas ça, une entreprise meurt. Je pense qu'on a franchi le cap de la taille critique et des premières années un peu tendues. Maintenant, il faut qu'on avance. Mais clairement, c'est le développement du chiffre d'affaires et de la marge.
Très bien, on va retrouver Cédric tout à l'heure. Je vous rappelle son numéro de téléphone si vous avez besoin justement de faire un état de votre situation dans votre entreprise pour vous aider justement à gagner de l'argent et à être, comment on peut dire, optimum. dans la gestion ?
Dans la gestion des documents, dans la, tout ce qui est processus documentaire, absolument.
Donc vous vous appelez Cédric au 06 46 85 21 69 ou vous lui envoyez un mail cedric.rouire@editium.com. A tout de suite.
C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tout de toi, je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâtrais tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tu danses, c'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de mon brillant, que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Votre émission Envie d'entreprendre vous est proposée par la communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Vénessin. Vous écoutez l'émission Envie d'entreprendre avec Marie Gallardot sur RTVFM.
Nous avons encore un petit quart d'heure à passer avec Cédric Weir, qui est consultant chez Editium. Justement, on parlait tout à l'heure de votre zone géographique. Et quel va être votre futur dans 3 ans? Est-ce que vous êtes capable, vous, de dire aujourd'hui en tant que dirigeant, ma société, je la vois dans 3 ans à tel endroit ou peut-être avec un développement
Oui, complètement. J'ai une vision. Mm-hmm. La vision, elle est assez modeste. C'est d'être, de devenir la société incontournable dans ce domaine-là, sur le bassin dans lequel on est, et un petit peu au-delà. C'est-à-dire, arriver à une taille d'une dizaine de personnes, ça me conviendrait parfaitement, et avoir une vraie légitimité dans ce secteur.
J'ai une question très importante qui vient suite à ce que vous venez de dire. Est-ce que votre concept peut être franchisé? Est-ce que vous pouvez devenir un franchiseur de votre concept?
Alors, on n'est pas des...
Parce que j'imagine que vous avez un savoir-faire que vous développez qui est très personnel à l'entreprise et aux collaborateurs avec lesquels vous travaillez. Donc ça formalise un concept bien spécifique que vous pouvez... Vous disiez tout à l'heure au démarrage, vous pouvez vendre votre concept. Est-ce que ça peut pas devenir une franchise ?
Alors, je ne me suis jamais posé la question pour l'instant, mais elle est intéressante parce qu'elle mérite d'être posée, d'être réfléchie. On n'a pas de produit fini à vendre. On est des intégrateurs, on vend de la prestation intellectuelle.
Et oui, mais ça, c'est déjà un savoir-faire que vous avez mis en place avec vos collaborateurs qui doit être protégé, en quelque sorte.
C'est vrai. C'est vrai, pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation, parce qu'on est déjà sur un développement nous-mêmes, déjà développer la société. Et pourquoi pas, ouais, c'est intéressant comme concept. J'ai pas réfléchi dessus, mais pourquoi pas.
Je pense à ça parce que j'ai un ami qui a mis une entreprise comme ça au démarrage, et il a mis un concept, et il a dit, tiens, ce concept, maintenant que ça marche, j'ai mis en entreprise, ça serait bien de le pondre à divers endroits, c'est-à-dire à Montpellier, à Marseille. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis tout en œuvre pour franchiser son concept qui lui appartient. Personne ne peut ne peut faire ce qu'il fait sans passer par lui. J'ai pensé à ça parce que c'est tout à fait atypique, votre entreprise. Elle est un peu spécifique dans son domaine. Même s'il y a des consultants qui le font, vous avez une spécificité, il faut le reconnaître. Et j'ai pensé à ça parce que je trouve que c'est un savoir-faire qu'il faut protéger.
C'est une réflexion à avoir. Alors, sur le marché, il est large quand même. Il y a quand même des sociétés importantes qui sont positionnées sur ce même créneau. Le marché, en plus, il est assez cristallisé économiquement. La situation, elle n'est pas évidente. Donc, il naît aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui deviennent des gens qui cherchent à se positionner. Après, le monde des affaires, de manière générale, il est quand même assez compliqué, assez difficile. Mais je trouve le concept intéressant de pouvoir franchiser cela, le marketer, alors je sais pas, le développer une marque de fabrique, sur un côté méthodologique, accompagnement, un vrai savoir-faire, oui, c'est intéressant.
Ça permettrait de vous avoir de la trésorerie et de pouvoir développer davantage d'autres concepts, peut-être. Justement, on parlait de zones géographiques, et est-ce que vous, dans vos clients principaux, ils sont situés tous sur le bassin du Vaucluse, ou vous avez de grosses sociétés ailleurs?
Le Vaucluse, c'est tout récent. On commence à avoir quelques clients dans le Vaucluse, une ou deux sociétés importantes type PME, quelques collectivités, donc les plus visibles. Mais c'est récent, c'est très récent, et parce que je pense que le Vaucluse est un terrain de jeu qui est beaucoup trop fermé, politiquement compliqué. Et on le sait, les chiffres sont là, ils sont annoncés, ils sont officiels, ils sont transparents. C'est un territoire qui n'est pas forcément riche, qui est même pauvre. Donc économiquement, le terrain de jeu pour moi, il est national, il est clairement national.
Mais il y a quand même des choses à faire dans le Vaucluse, mais pas tout de suite.
Pas tout de suite.
C'est ce que j'entends.
Pas tout de suite. Je pense qu'il faut laisser le territoire se développer. Alors il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui sont dans le positivisme, que je rejoins d'ailleurs aujourd'hui de manière intensive. Par exemple, tout ce qui se passe autour du label French Tech.
Oui, j'allais vous en parler.
French Tech Culture. Qui est porté aujourd'hui par une association avec un label qu'on a obtenu il y a à peu près un an et demi, je crois, ou même un an, et qui permet aujourd'hui à des entreprises, notamment tout ce qui est innovation, start-up, de pouvoir être incubées dans un accélérateur qui est basé à Avignon et qui va permettre à ces entreprises de lever des fonds. Et puis ces entreprises ont besoin d'être accompagnées avec du mentorat. Elles ont besoin de structures, de conseils, et c'est ça que je trouve formidable. La dynamique est liée aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de problème. Je suis, donc il y a toutes ces initiatives-là autour de la French Tech Culture. Il y a les diverses associations auxquelles je soutiens aujourd'hui, même si j'ai pris un peu de recul, autour d'Avignon Delta Numérique, et puis d'autres, que je trouve formidables. Voilà, les réseaux se créent, les réseaux se maillent. Maintenant, on est sur un territoire qui est en difficulté économiquement, qui est en train de se relever. Il y a une très très belle dynamique, j'y crois. Mais pour l'instant, il faut vivre. Il faut que la société facture ses services, qu'elle rende du chiffre d'affaires. Et donc, on est plutôt à développer ce chiffre-là en dehors du Vaucluse. Malheureusement, mais forcément pour nous, c'est pas forcément aujourd'hui un problème.
Donc, beaucoup de déplacements. Comment on relie la vie professionnelle, la vie privée dans ce cas-là?
Alors j'ai une chance phénoménale, je dirais, c'est que ma femme a connu l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale il y a plus de 20 ans. Elle sait ce que c'est que le sacrifice pour développer son entreprise. Et puis elle est derrière moi à fond, donc il n'y a pas de problème. J'ai tout son soutien. Mes enfants, j'essaie aussi de pallier cet équilibre. en leur accordant du temps un maximum en dehors. Je décroche réellement le week-end. Hein. Par contre, le reste de la semaine, je suis quand même assez très occupé. Et j'arrive à garder cet équilibre parce que je pense que je suis compris par ma famille. Hein. C'est important hein, d'être compris.
D'être entouré.
Exactement.
Mm-hmm. Et justement, on parlait de votre entreprise au démarrage. Les financements dans tout ça, est-ce que vous avez eu besoin de financement, d'aide, de soutien ou est-ce que vous avez démarré par vous-même ?
J'ai démarré par moi-même, aucun financement, autofinancement total. Donc, c'est-à-dire.
C'est pas un peu dur, ça ?
Si, clairement. Oui, c'est une difficulté. C'est un choix parce que on n'est pas sur un concept innovant qui va révolutionner les choses et qui va être extrêmement visible avec un produit réellement fini, encore une fois. C'est le modèle de la start-up hein, qui a vraiment un concept, un produit fini et qui va révolutionner certains usages. Mmh. Encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure que notre métier, c'est déjà de convaincre. Quand on vous met une application entre les mains qui permet de faire du covoiturage, aujourd'hui, on n'a plus besoin de convaincre les gens. Mmh. Même au départ, le concept était phénoménal. Mmh. Moi, ce que je fais pour convaincre les chefs d'entreprise avant tout, les collectivités, ben, il faut du temps. Donc je vois pas pour l'instant, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là d'autodéveloppement, parce que on a soit les bases, on a soit le concept, on a soit la méthodologie, et puis ce sont avant tout mes clients qui vendent à ma place, c'est ça le truc. Je n'ai pas besoin d'aller chercher...
Du bouche à oreille ?
Exactement, mmh. Pas du bouche à oreille, hein, c'est vraiment mes clients deviennent demain mes prescripteurs.
D'accord.
Plutôt que... Je mets des moyens dans le développement commercial, le marketing, mm-hmm. par du financement, certes, et qui vont aller chercher des nouvelles parts de marché. Les parts de marché, je les capte par mes clients qui savent aujourd'hui vendre, prescrire mes services parce que j'assume pleinement le fait qu'on est une entreprise à forte valeur ajoutée, qu'on fait de la qualité et que 100% de nos clients sont des réelles références.
Et les tendances du marché, donc on a l'impression que c'est en hausse, mais justement, elle se fait par la dématérialisation grâce à la nouvelle technologie numérique, ou c'est parce que justement il existe des personnes comme vous qui frappent à la porte des entreprises pour leur dire attention, ne soyez pas trop écartés de tout ce qui se passe autour de vous, qui fait que vous allez gagner aussi de l'argent si vous m'écoutez et si vous... adhérer à ce que je vais vous proposer.
Complètement. La dématérialisation, aujourd'hui, les services de l'État se dématérialisent, mm-hmm. on remplit sa feuille d'impôt maintenant par Internet. Donc tous ces concepts-là sont tirés aussi par une vraie dynamique globale hein, de vouloir supprimer tout ce qui est papier. Nous, notre métier, il est aussi dans la dématérialisation parce qu'on aide des entreprises à passer d'un fonds documentaire papier à un fonds documentaire numérique. Mm-hmm. Donc il y a une étape de transition. Et donc il faut convaincre effectivement les chefs d'entreprise de franchir ce pas-là parce qu'ils savent, en leur expliquant que s'ils ne basculent pas dans cette transition digitale, ils vont tout simplement perdre des parts de marché et potentiellement mourir. Donc on est dans cette logique de, il faut convaincre, il faut alors convaincre, ça veut dire aussi multiplier les faisceaux, la communication, le réseau, l'événementiel, un peu de communication aussi informelle, les réseaux sociaux, j'essaie de pas négliger, mais c'est pas mon cœur de métier, etc., etc. Donc on essaie de prêcher cette bonne parole, et on est écouté quand même de plus en plus. Hein, maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, je commence à avoir des appels entrants, des gens qui m'appellent, des sociétés, des collectivités, et j'ai entendu parler d'eux, venez me voir, ça m'intéresse.
Donc il faut... énormément faire du lobbying parce que pour parler de votre projet, de ce que vous faites, parce que c'est quand même pas coutumier de rencontrer ce genre d'entreprise qui a une spécificité quand même.
Complètement, ouais, tout à fait.
Donc vous êtes sans arrêt en train de faire du commercial, du relationnel.
C'est mon métier à temps plein. Moi, je suis chef d'entreprise, mm-hmm. consultant, mm-hmm. donc opérationnel. Hein, je délivre des projets, je délivre du conseil, et à côté de cela, oui, je fais de la communication. Je fais de l'événementiel, je suis ici aujourd'hui pour parler de mon métier, etc., etc. Oui, complètement. Et puis, à partir de là, il y a tout ce qui est aussi tendance de marché, qui fait que, on le sait, hein, il y a des données se multiplient aujourd'hui à l'infini sur les réseaux et qu'il y a besoin aujourd'hui de solutions, d'aider les entreprises à canaliser cette information dont le document fait partie.
Très Très bien, on vous remercie Cédric pour toutes ces informations. Je vous redis son numéro de téléphone 06 46 85 21 69. C'est Cédric Rouir. Le mail c'est cedric.rouir@edicium.com. Je remercie également Franck Janin qui était notre étudiant de ce soir. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou Franck ? Non ?
Pour finir, je dirais simplement qu'aux jeunes entrepreneurs, et ce que je dis souvent à mes collaborateurs, qui tente rien n'a rien. Donc qui ne fait rien, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc il faut à un moment donné oser.
Voilà. Merci, bonne soirée, au revoir.
Votre émission Envie d'entreprendre vous a été proposée par la communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venaissin.